Seigneur, debout devant toi, alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à nous asseoir très humblement à tes pieds pour recevoir ta parole, cette parole qui est une lampe à nos pieds, cette parole qui est une lumière sur notre sentier, cette parole qui est la véritable nourriture de nos âmes et de nos esprits. Alors que nous sommes là, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce et ce privilège de pouvoir t'étendre une oreille attentive et recevoir de toi tes instructions. Parle-nous ce matin. Fais descendre sur ton serviteur l'onction dont il a besoin. Donne-lui la capacité de proclamer ta parole, Seigneur, avec autorité, avec puissance. Et en même temps, donne à ton peuple d'être sensible à ta voix. Donne à ton peuple, Seigneur, de se tenir là devant toi et de s'ouvrir à l'action de ta parole. Que ton esprit agisse au travers de ta parole. Merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien. Parle-nous, secoue nos consciences. Débarrasse-les, Seigneur, d'œuvres mortes. Parle-nous, ô Dieu, purifie nos cœurs. Parle-nous et renouvelle, Seigneur, notre esprit. Affine notre écoute spirituelle. Parle-nous et rends-nous malléables entre tes mains. Seigneur, transforme-nous à ton image et à ta ressemblance. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Et gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Bien, nous disons merci à Dieu pour ce moment de louange et d'adoration. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Et nous allons donc revenir sur notre thème d'il y a quelques dimanches d'ici. Rappelez-vous, pendant plusieurs dimanches, nous avons attiré notre attention sur la nécessité de garder notre foi. Nous avons attiré notre attention sur la nécessité, mes amis, de veiller sur notre foi. Car in fine, c'est la foi qui détermine le genre de vie que nous sommes amenés à vivre. In fine, c'est la foi, mes amis, qui détermine ce que nous sommes véritablement, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi et surtout aux yeux de notre Créateur. Notre grandeur dépend, mes amis, de la qualité, dépend de la grandeur de notre foi. Plus notre foi grandit, plus notre grandeur aux yeux de Dieu, suivra la même ascension. Nous étions donc en train de parler des ennemis de la foi. Et oui, rappelez-vous, la foi a des ennemis. Voilà pourquoi nous devons veiller sur elle. Voilà pourquoi nous devons la garder. Voilà pourquoi nous devons poursuivre notre marche en veillant que ces ennemis-là n'arrivent pas à torpiller notre foi, n'arrivent pas, mes amis, à l'anéantir, à la liquéfier. Lorsqu'elle perd sa consistance, laissez-moi vous dire une chose, c'est que cette foi ne sert plus à rien, voyez-vous. Parce que la foi des ennemis, nous devons alors veiller absolument à ce que ces ennemis ne puissent pas se manifester d'une manière ou d'une autre, ne puissent pas l'affecter. Et nous avons parlé du premier ennemi de la foi. Je sais que vous avez une intelligence extraordinaire. Eh bien, le premier ennemi de la foi, je me permets de vous le rappeler avant de commencer aujourd'hui. Donc avec le deuxième ennemi, le premier ennemi, c'est l'amour de l'argent, c'est mammon. Et nous avons vu comment, mes amis, et la Bible est là pour corroborer mes propos, comment l'amour de l'argent a amené certaines personnes à se placer dans des situations de tourments, de tribulations, des gens qui se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments à cause de l'amour de l'argent. Et la Bible dit et souligne de manière tout à fait formelle que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et aujourd'hui, nous allons donc voir la deuxième ou le deuxième ennemi de notre foi, à savoir la mauvaise conscience. Il y en avait quatre. Premièrement, la racine de comment l'amour de l'argent, premier ennemi. Ce n'est pas par ordre d'importance, je vous avais dit, hein. Donc le choix est arbitraire, j'aurais pu commencer par la mauvaise conscience, mais j'ai essayé de trouver un certain ordre, voyez-vous. Donc l'amour de l'argent, la mauvaise conscience, la fausse connaissance et enfin la pseudo-science. Voilà donc les quatre ennemis que nous avons épinglés. Et aujourd'hui nous allons parler de la mauvaise conscience comme ennemi de la foi. Gloire à Dieu. Nous allons rester dans les écrits de Paul, et en particulier dans la première épître qu'il adresse à Timothée, Timothée qu'il avait laissé à Éphèse pour qu'il puisse veiller, établir des anciens, etc., mais en même temps diriger l'Église. Et Timothée était confronté à pas mal de défis avec de gens qui se présentaient, nous verrons ça un peu plus en profondeur, de gens qui se présentaient comme étant des docteurs, mais qui cependant distillaient, qui cependant répandaient des enseignements de nature toxique et nocive. 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, et puis ensuite, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 6, nous lisons. « Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et de généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie ou une foi sincère. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Tant de raisons, mes amis, de veiller sur notre foi, de garder notre foi, de tout faire pour ne pas l'exposer à toutes sortes de choses toxiques, à toutes sortes de pratiques nocives, afin que toutes ces choses-là ne finissent pas par détruire, par anéantir, par torpiller notre foi. Tant d'ennemis qui sont là devant nous, mes amis, qui cherchent par tous les moyens à nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur, car comme je l'ai souligné à plus d'une fois, la foi reste et demeure cet élément essentiel dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. Dans notre séjour ici-bas et dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de cet élément vital, de cet élément essentiel qui est une sorte de cordon ombilical qui nous relie à Dieu. Vous comprenez pourquoi le diable, pour nous avoir, pour nous attaquer, pour nous affaiblir, pour nous mettre le bâton dans les roues et nous empêcher d'avancer, de progresser. Vous comprenez pourquoi le diable cherchera d'abord et avant tout à saper notre foi, à attaquer notre foi. Et nous le verrons. En utilisant toutes sortes de moyens et en particulier les faux enseignements, des doctrines spéculatives, comme ça a été le cas à Éphèse, dans cette église d'Éphèse où Timothée donc était un jeune pasteur.
C'est cette foi qui nous permet d'avancer. C'est cette foi qui est à la base de notre salut. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes pardonnés. C'est aussi par la foi que nous expérimentons la puissance de Dieu en nous appropriant de ses promesses. Ces promesses qui sont, oui, amen, en Jésus-Christ. Parmi ses ennemis, il y a la mauvaise conscience. Et nous allons voir, mes amis, ce que la Bible entend par mauvaise conscience. Cela est important, car cette mauvaise conscience est aussi toxique que l'amour de l'argent. Cette mauvaise conscience, mes amis, empêche la foi. Comment ? Empêche la croissance de la foi. Travaille à son anéantissement. Oui, la foi et la mauvaise conscience. Après avoir mis Timothée en garde, comme nous venons de le lire, en garde contre des faux docteurs, de faux docteurs avec leurs faux enseignements, avec leurs doctrines propres et spéculatives, leurs hérésies, et nous reviendrons pour essayer de voir quels étaient les éléments toxiques de leur enseignement pour que l'apôtre Paul puisse intervenir et mettre en garde Timothée et le pousser à combattre, mes amis, ce faux enseignant. Après tout cela, l'apôtre attire l'attention de Timothée sur une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Une vérité somme toute qui est la vertu même par excellence de la vie chrétienne, à savoir l'amour, nous avons lu. Cet amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, c'est-à-dire une foi sans hypocrisie. Mes amis, les membres de ce trio, ou mieux, le membre de cette triade, à savoir un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère, ces trois éléments vont toujours ensemble. Ceci nous montre qu'il n'y a pas de véritable amour pour Dieu et par conséquent de véritable amour pour notre prochain si nous n'avons pas un cœur pur, si nous n'avons pas une bonne conscience et si nous ne marchons pas par la foi. C'est facile de dire « Seigneur, je t'aime », mais l'amour du Seigneur doit être démontré par des actes concrets. Alléluia. Par une conduite qui reflète sa volonté. Ce n'est pas seulement en parole, ce n'est pas de la théorie « Seigneur, je t'aime »,« Seigneur, je t'aime »,« j'aime mon prochain », pas du tout. L'amour s'exprime par des actes concrets. Et quand nous parlons de l'amour, au regard de la Bible, nous ne voyons pas seulement des actes qui sont posés. Voyez-vous, pour Dieu, il y a aussi les motivations derrière ces actes. Oh, hallelujah. Car quelqu'un peut poser un geste par amour pour nous. Il nous donne de l'argent pour pourvoir à nos besoins. Mais seul Dieu peut connaître sa motivation. Il peut le faire pour être vu, pour que nous sachions qui il est. Dans ce cas-là, la motivation n'est pas pure. Voyez-vous. Donc, quand nous parlons de l'amour, eh bien, nous voyons la totalité de l'acte. Non seulement l'acte en lui-même, mais également la motivation derrière cet acte. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis, l'autre commandement qui vient tout de suite après, tu aimeras ton prochain. Eh bien, cet amour sur le plan vertical, l'amour de Dieu, mais aussi cet amour sur le plan horizontal, eh bien, a besoin de provenir d'un cœur pur, d'une bonne conscience, ensuite d'une foi sincère. Vous voyez que la foi, mes amis, concerne tout notre être. Ce n'est pas, c'est plus qu'un assentiment intellectuel aux déclarations de la Bible. Jésus est Seigneur. Oh, je crois que tu es Seigneur. Oui, l'intellect est concerné. Mais il faut que ce qui arrive à la tête finisse par descendre dans le cœur. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce lien étroit que la Bible établit. Ce lien intime, ce lien évident, et je dirais même inextricable, entre d'une part la bonne conscience et d'autre part la foi, une foi sincère. Il y a donc un lien, voyez-vous, et nous le voyons. Nous l'avons lu. L'apôtre Paul encourage Timothée à combattre le bon combat. Et au-delà de Timothée, c'est toute l'église du Christ que l'apôtre encourage de combattre le bon combat. Comment? En gardant la foi et une bonne conscience. Vous voyez, mes amis? Donc, ce lien est établi. Le lien est là. La nature de notre conscience est déterminante, mes amis, dans notre capacité à interagir avec Dieu, dans notre capacité à interagir, à expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu et dans notre vie. Et Paul d'ajouter que cette bonne conscience, quelques-uns l'ont abandonnée, cette bonne conscience a fini par se transformer en mauvaise conscience, et la conséquence a été terrible, catastrophique, c'est que ces gens-là ont fini par faire naufrage en ce qui concerne la foi. Vous vous rendez compte, mes amis? La mauvaise conscience qui prend place et qui finit par entraîner les gens à faire naufrage, à s'égarer loin de la foi. Cela ne veut pas dire que ce genre n'avait plus le nom de Jésus dans leur bouche, pas du tout. On peut continuer à voir le nom de Jésus dans sa bouche. On peut continuer à lire la Bible. On peut continuer à fréquenter une assemblée. Et pourtant, mes amis, avoir fait naufrage par rapport à la véritable foi biblique à cause de la nature de notre conscience. Une conscience souillée. Une conscience impure. Une conscience coupable. Et enfin, la Bible nous enjoint, et ça, certes, l'apôtre le place dans le contexte de diacre, au chapitre 3 de 1 Timothée, verset 9, il nous est dit que la foi, nous devons conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Oh, hallelujah. Je me suis amusé à compter le nombre de fois que le mot foi apparaît dans cet épître de Paul. En français, c'est 18 fois. Mais si vous lisez ça en grec, c'est 19 fois. Vous voyez, c'est beaucoup, hein? Pour une épître qui a à peine 6 chapitres, 18 fois, nous trouvons la notion de foi. Tout ça pour montrer à Timothée, et par-delà Timothée, montrer à l'église d'Éphèse, et par-delà l'église d'Éphèse, montrer à tous les croyants, tous les chrétiens, l'importance, mes amis, de la foi. Nous ne le dirons jamais assez. Nous devons tout faire, investir, pour que nous croissions dans la foi. Et nous ne pouvons pas croître dans la foi si nous n'avons pas une bonne conscience. Le mystère de la foi. Oui, ça reste un mystère. Parce que la foi est fondée sur la personne du Christ. Alléluia. La foi se base sur la parole infaillible du Christ. Et ce mystère-là de la foi ne peut être conservé que dans une conscience pur, dans une bonne conscience, débarrassé de tout sentiment de culpabilité. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie, mes amis, si votre conscience vous reproche, Si votre conscience vous interpelle, si votre conscience est comme un boulet à vos pieds, en disant, ceci vous l'avez volé. Alors vous essayez d'éteindre cette voix en disant, oh Dieu m'a déjà pardonné. Mais la conscience dit, oui, mais ce n'est pas à toi. Il faut restituer. Voilà. Et beaucoup d'hommes et de femmes essayent d'échapper à leur conscience par une sorte d'activisme nocif. Voyez-vous. Tu es avec le mari d'autrui et tu essayes de te convaincre, Dieu m'a parlé. Non, Dieu ne peut pas se contredire. Accepte simplement, repens-toi. Tu peux essayer d'étouffer la voix de la conscience, mais j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, c'est une mauvaise, très mauvaise chose. Car tant que cette mauvaise conscience est là, tu n'évolueras jamais dans la foi. Car le mystère de la foi doit être conservé dans une conscience pure. Mes amis, puisque nous sommes tous appelés à marcher, à avancer dans la vie par la foi, nous devons alors tout faire, non seulement pour ne pas tomber dans le piège de mammon, c'est-à-dire dans le piège de l'amour de l'argent, mais nous devons aussi tout faire pour garder notre conscience, avoir une bonne conscience. Et une bonne conscience signifie une conscience pure, irréprochable. Quand je me tiens devant Dieu, je n'ai aucun motif de me reprocher. Chacun devrait se tenir très objectivement, très sincèrement devant le Seigneur et laisser le Saint-Esprit secouer notre conscience et nous montrer là où ça ne va pas. Voyez-vous? Une bonne conscience est une conscience pure, une conscience sensible, irréprochable, une conscience qui se nourrit constamment de la présence de Dieu et de sa parole. Oh, nous ne le dirons jamais assez. Faites attention avec tous ces enseignements qui ont l'apparence de la vérité. Mais derrière, mes amis, ce sont des enseignements toxiques. Des enseignements de nature à détruire votre foi. Et aujourd'hui, croyez-moi, il y a de plus en plus d'hérésies qui sont enseignées dans les églises. Les gens ne savent plus à prêcher la bonne nouvelle, prêcher la Bible dans sa simplicité. Alors ils vont chercher des enseignements occultes, ésotériques. Ils remplacent simplement le nom, je ne sais, de quelle idole par le nom de Jésus. Non. Il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Nous voyons donc, mes amis, pour revenir à notre passage, qu'il y a un lien très intime, un lien évident entre la conscience et la foi. Voilà. Ce lien est là. Nous ne pouvons rien faire. C'est une loi spirituelle. Voyez-vous? Donc, c'est un lien vital qui nous montre que la santé de notre foi dépend de la qualité et de la nature de notre conscience. Alléluia. La santé de notre foi. Je crois que si nous voulons être sincères, nous voulons tous avoir une foi en bonne santé, à l'abri de toutes sortes de virus corona spirituels. En d'autres mots, l'état de notre conscience affecte en bien ou en mal l'état de notre foi. Une bonne conscience, une conscience qui est de plus en plus purifiée par la présence de Dieu, eh bien, est une conscience qui est une sorte de terrain favorable, mes amis, à la croissance de la foi. Autrement, ce sera la mort, ce serait la mort, la conscience. Parlons-en un peu. C'est quoi la conscience? Vous voyez, faut toujours se donner la peine de s'arrêter un moment pour essayer de comprendre les termes que la parole de Dieu utilise. Car quelquefois, nous avons des termes dont nous ignorons complètement le sens. Ou alors, le seul sens que nous avons, c'est celui que notre culture nous a communiqué, notre religion nous a communiqué. Voyez-vous, nous devons apprendre à vérifier tout à la lumière de la parole. Lorsque Paul utilise ce terme conscience, il y a du reste, d'ailleurs, le premier dans tout le Nouveau Testament à utiliser ce terme conscience et aussi celui qui l'emploie le plus. Je regardais un peu les occurrences de ce mot conscience dans certains livres du Nouveau Testament, dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, je crois, c'est 4 fois. L'apôtre Pierre l'utilise 3 fois, mais Paul est celui qui l'utilise le plus. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience? Quand il parle de cette bonne conscience, de quoi parle-t-il? Eh bien, la première chose que nous devons savoir, puisque toute notre vie est appelée à être fondée sur la Bible, et quand nous parlons de la Bible, nous parlons et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le deux, eh bien, constitue la révélation écrite de Dieu à l'humanité. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Eh bien, en regardant à ces termes, la première chose que nous devons savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de terme correspondant dans tout l'Ancien Testament. Vous n'allez pas trouver le mot conscience. Maintenant, vous pouvez le trouver dans certaines versions où on essaye un peu d'expliquer, non? Mais sinon, en hébreu, il n'y a pas de terme correspondant pour parler de conscience. L'Ancien Testament parle du cœur, simplement. C'est ainsi que Job, par exemple, Job chapitre 27, au verset 6, il dit que son cœur ne lui reproche rien. Eh bien, si nous voulons extrapoler à partir du Nouveau Testament, nous pourrions dire que son cœur, ou plutôt sa conscience, ne lui reprochait rien. Donc, il est plutôt question de cœur dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience? C'est cette capacité, c'est ce pouvoir de jugement qu'il y a dans tout homme qui nous amène à émettre un jugement des valeurs, à dire que ceci est bien ou mal. Voilà. C'est ce témoin intérieur qui est dans tout homme, voyez-vous, et qui l'interpelle et qui en même temps l'amène à faire un jugement, à mettre un jugement des valeurs, à évaluer un acte dans sa motivation, mais aussi dans l'action. C'est ça, enfin j'essaie d'être le plus bref possible, c'est ça la conscience. Voyez-vous? Un jugement, un pouvoir qui déclare que ceci ou cela est bien ou mal. Or, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Or, pour dire que ceci est bien ou mal, il faut avoir un référentiel. C'est-à-dire, il faut avoir un ensemble d'éléments qui constituent une référence. Et à partir de ce référentiel, vous allez voir si cet acte est bon ou mauvais. Vous allez évaluer si le choix que vous faites est un bon choix ou mauvais. Vous allez juger les autres si ce qu'ils font est bon ou mauvais. Il faut donc un référentiel. Alors, Dieu, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, a prévu ce que j'appelle le référentiel de base. Voyez-vous? Quel est ce référentiel de base que nous trouvons dans le cœur de tout homme? Eh bien, c'est la loi morale. La loi morale que Dieu a inscrite dans le cœur de tout homme. Et dans tout homme, il y a donc cette conscience qui amène un homme ou une femme, qu'il soit converti ou pas, à savoir que, par exemple, tuer est mauvais, que voler est mauvais. Romains, chapitre 2, très rapidement, le verset 15 nous le dit, Romains. Romains 2, 15, est-ce que vous pouvez afficher cela? Voilà, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, dans le cœur des païens, c'est-à-dire vous avez les juifs qui ont reçu la loi de Moïse, qui était très claire, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas adultère, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez les païens, les goïms. Voilà. Alors, Paul dit, même pour les païens, l'œuvre de la loi morale est écrite dans leur cœur. La preuve, c'est que leur conscience en rend témoignage, verset 16 et verset 15, et leur raisonnement soit les accuse, soit les défend tour à tour. Et je prends quelques exemples. Honorer les parents. C'est un commandement que nous trouvons dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Et puis, ne commets pas adultère. Ne commets pas de vol ou ne vole pas. Ne commets pas de meurtre. Tout cela est inscrit dans le cœur de l'homme. Et la conscience qu'il y a dans tout homme, eh bien, va donc rendre témoignage par rapport à ça. C'est ainsi que quand quelqu'un vole, il y a la voix de la conscience qui l'interpelle. Même s'il n'est pas chrétien, le fait d'être fait à l'image de Dieu, eh bien, fait que nous avons en nous cette loi morale qui est inscrite et la conscience, ce témoin intérieur, et mes amis, est là pour rendre témoignage à cette loi. Soit nous accuser, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, peu importe la culture, tue, eh bien, la loi l'interpelle. Et nous allons voir. Malheureusement, il y a des cultures avec des pratiques qui ont fini par cautériser leur conscience et par accepter certains meurtres. Et dans ces cultures-là, ben, les gens vont trouver normal, par exemple, le crime d'honneur, j'en reviendrai. Honorer les parents dans toutes les cultures, vous verrez, même chez les païens. Avant que le christianisme arrive chez nous, les Africains, les enfants grandissant, finissaient par prendre soin de leurs parents, oui ou non? Oui ou non? Eh bien, ça, c'est inscrit dans notre ADN. Mais malheureusement, sous d'autres cieux, l'égoïsme a fait que cette voix de la conscience par rapport à ce commandement se taise. C'est ainsi que vous verrez en Occident, eh bien, les enfants préfèrent mettre leurs parents dans des hommes et même souhaiter leur mort pour qu'ils héritent. C'est là que nous devons faire très attention. Parce qu'il y en a qui prennent tout ce qui vient d'Occident comme si tout cela avait valeur universelle. Attention, la solidarité intergénérationnelle est une valeur pour nous Africains. Alléluia. Les enfants ont le devoir de prendre soin de leurs parents lorsque ces derniers auront atteint l'âge canonique, passez-moi l'expression. Quand ils seront devenus vieux, c'est de leur devoir d'en prendre soin. Honore ton père et ta mère. Et quand quelqu'un le fait, eh bien, cette voix intérieure lui dit qu'il fait quelque chose de bien. Alors, tu ne commettras pas, tu ne tueras pas, tu commettras pas de meurtre. Ça, c'est inscrit dans notre ADN, dans notre conscience. Et quand quelqu'un tue, cette voix l'interpelle. Ou alors, tu ne commettras pas de vol. Peu importe la culture, païenne, chrétienne, judéo-chrétienne, tout ce que vous voulez, nous savons tous que voler est mauvais. Donc, ces témoins intérieurs, qu'est la conscience, réagit en fonction de la loi que Dieu a écrite dans notre cœur. Quand nous honorons les parents, quand nous savons alors que c'est bien. Mais quand nous commettons des choses comme le vol, comme le meurtre, là notre conscience nous interpelle. Mais cette conscience-là est soumise à toutes sortes d'influences extérieures qui vont, d'une manière ou d'une autre, finir par l'influencer. L'influence de la culture, l'influence de la tradition, l'influence de la religion, etc. Quelques exemples très rapidement, avant de terminer. Prenons le cas de la polygamie, ou même de la polyandrie. C'est-à-dire, la polyandrie, c'est le fait qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. Oui, ça s'est fait, hein. Dans certains pays d'Asie, j'ai eu à voir un reportage, à suivre un reportage là-dessus, où une femme avait 3-4 maris qui se succédaient, hein. L'un venait le lundi, l'autre le mardi, mais enfin, elle avait un planning. Et il n'y avait pas de jalousie entre ces hommes-là. J'aimerais voir ça ici. Hein. Il y aurait beaucoup de meurtres. Bref, ou la polygamie, le fait d'avoir plusieurs femmes. Il y a des cultures qui trouvent ça normal. Et les femmes, eh bien, ayant été élevées dans ces cultures-là, ont fini par trouver cette pratique normale. Voyez-vous? Et même aujourd'hui, ce qui est terrible, dans certains milieux dits chrétiens, vous avez des pasteurs qui, au mépris de la parole de Dieu, par une approche tout à fait bizarroïde de la parole de Dieu, justifient la polygamie. Hein. Et dans ces milieux-là, eh bien, la conscience de ces fidèles a été éduquée de cette manière. Ainsi, les femmes trouvent normal d'être à quatre dans un même ménage. Ça se passe ici, j'ai suivi ça. Hein. Ça m'avait mis hors de moi-même. Le crime d'honneur, par exemple, perpétré en réaction à un comportement jugé comme ayant apporté le déshonneur à la famille. Au Pakistan, par exemple, pour ne parler que de ce pays, eh bien, il y a ce qu'on appelle le crime d'honneur. Ça veut dire quoi? Quand vous allez à l'encontre du code d'honneur, eh bien, un membre de la famille a le droit de tuer, et notamment les filles. C'est surtout les filles qui en sont victimes. Je me souviens, ça s'est passé, un cas qui est arrivé en Belgique, je crois dans la région de Charleroi, où une famille pakistanaise, à un moment, eh bien, on a retrouvé la fille tuée. L'enquête prouvera que c'est son propre frère qui l'avait tué, qui avait commis un crime d'honneur, entre guillemets, parce qu'elle avait osé sortir avec un nom musulman et un nom pakistanais. Eh bien, dans ces cultures-là, on trouve normal. On prend une fille parce qu'elle a été avec quelqu'un qui n'est pas, qui ne répond pas aux normes familiales, aux normes de la culture. Eh bien, on donne droit à l'aîné ou au garçon, à un des garçons de la famille, de tuer sa propre sœur. Et ils le font avec le sourire jusque-là. Vous voyez, mes amis, la conscience subit toutes sortes d'influences selon le milieu dans lequel nous évoluons. Voyez, l'inceste, il y a des traditions qui justifient l'inceste. C'est quand même terrible. L'oncle part avec la fille de son frère, on trouve ça normal. Voyez-vous? Et les gens, dans cette culture ou dans cette tradition, ont une conscience, eh bien, qui répond selon les instructions, selon les informations reçues, l'éducation reçue. L'inceste, c'est quand même grave. Nous devons dénoncer ces choses. Dans d'autres cultures, la place de la femme, des cultures où la femme est considérée comme une chose, des cultures où la femme n'a même pas de statut. Un bout de garçon, un petit fiston de 10 ans, a plus de valeur qu'une femme de 30 ans dans certaines cultures. Et les femmes trouvent tout à fait normal. Quand ce petit-là se dit, toi, la maman commence à trembler. C'est parce que, mes amis, leur conscience a été éduquée, a été façonnée de cette manière. Donc, une conscience, avec la conscience, nous devons faire très attention quant à la nature des influences que nous subissons. Vous comprenez pourquoi la Bible nous encourage à fréquenter des gens qui partagent la même foi que nous. Autrement, vous risquez à un certain moment de commencer à voir les choses comme les amis, comme vos amis le voient. Ouais. Je parlais avec un homme un jour, il m'a dit, oui, mais dans notre famille, papa avait eu 3 femmes, beaucoup d'enfants. J'ai pris, mais c'est la tradition. Quoi? Quelle tradition? Vous voyez, sa conscience a été fortement marquée, cautérisée par toutes ces traditions. Donc, la conscience subit, mes amis, un processus de transformation continuelle par toutes sortes d'influences auxquelles elle est soumise. Ça peut être des influences qui viennent de la famille, du milieu culturel dans lequel on évolue, de la philosophie, de la religion, de l'occultisme, voyez-vous. Ou alors ça peut être une influence qui vient de la part de Dieu et de sa parole. Alléluia. Eh bien, ce qui ne vient pas de Dieu aura pour effet d'intoxiquer notre conscience et la rendre mauvaise. Ainsi, il y a des pratiques, il y a des enseignements. Je reviendrai, si nous avons le temps, parce que dans mon planning, il faudra terminer avec les 2 autres ennemis. Vous voyez, une conscience exposée à ce genre d'enseignement peut être souillée, peut être rendue impure. Lorsque quelqu'un défend la polygamie, il n'a aucun élément biblique pour soutenir cela. Le seul élément qu'il a, c'est sa tradition, c'est sa culture. Vous voyez? Eh bien, ça, ce sont des choses qui souillent la conscience, qui endurcit la conscience, qui la rend insensible. Bref, le péché reste, mes amis, un virus destructeur de la conscience. Voyez-vous? Un virus avec un taux de létalité très élevé. En conclusion, nous devons tout faire pour être à l'abri de toutes ces influences toxiques auxquelles nous sommes soumis, auxquelles notre conscience est soumise, et nous laisser former, transformer par le Seigneur au moyen de sa parole. Alléluia. Sous l'action du Saint-Esprit, eh bien, notre conscience va être renouvelée, va être éduquée, va être façonnée, va être rendue sensible, vous voyez, pour devenir une bonne conscience, une conscience pure, une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Et avec une telle conscience, alors, nous pourrions voir notre foi grandir, recevoir la parole de Dieu et voir cette parole, mes amis, s'enraciner en nous et nous donner la capacité d'expérimenter sa puissance. Une conscience éclairée, irréprochable. Alors, la question pour terminer, quel est l'état de notre conscience ce matin? Y a-t-il des choses que ta conscience te reproche? Te sens-tu coupable de quelque chose? Dieu t'a parlé en plus d'une fois, mais tu as toujours essayé par tous les moyens d'étouffer la voix de la conscience. Écoutez-moi bien, mon frère et ma sœur, cette réaction n'est pas bonne. Cette attitude n'est pas bonne, car en laissant ta conscience être secouée par des sentiments de culpabilité, en laissant ta conscience se plaire dans des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu, tu vas te retrouver avec une mauvaise conscience, vous voyez, et une mauvaise conscience va donc contribuer à la destruction de notre foi. Si tel est le cas, si tu as une conscience chargée de péché, une conscience souillée, que dois-tu faire? Eh bien, le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, à s'approprier de Hébreux, chapitre 9, verset 24, qui dit ceci, « Combien plus le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?» Et pour servir Dieu, il faut avoir la foi, voyez. Mais cette foi ne peut pas croître dans un cœur dont la conscience est chargée d'œuvres mortes, dont la conscience est chargée, mes amis, des œuvres du péché. Alors, la seule manière aujourd'hui d'avoir une conscience pure, c'est de se repentir de nos péchés et de faire appel au sang de Jésus, qui seul a le pouvoir de laver nos consciences, de les débarrasser de toutes ces œuvres des ténèbres, de ces œuvres mortes. Alléluia. Inclinons notre tête dans la prière et laissons nos cœurs réagir par rapport à l'interpellation de notre conscience. Mon frère et ma sœur, tu es conscient de choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Dieu a eu peut-être à te parler, mais tu as toujours résisté. Et aujourd'hui, il te montre qu'il y a un lien évident, un lien intime entre une bonne conscience et une foi sincère, dynamique, efficiente, puissante. Alors dans ce cas, tu n'as pas d'autre choix que de te repentir et puis de faire appel au sang de Jésus que seul peut débarrasser nos consciences de toute impureté et les rendre ainsi pures. Si tel est le cas, lève simplement la main, nous allons prier ensemble. Merci pour les mains qui s'élèvent. Oh, alléluia. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci, merci. Seigneur, c'est devant toi que nous nous tenons en réaction au message de ta parole. Merci de nous montrer par ta parole le lien évident, étroit, intime, vital qui existe entre d'une part une bonne conscience et d'autre part une foi sincère. Ces bien-aimés qui viennent de lever leurs mains, Seigneur, réalisent que leur conscience est chargée de sentiments de culpabilité, chargée, Seigneur, d'œuvres mortes, chargée de péchés, chargée d'impureté. Et ils s'étiennent devant toi pour se repentir. Ô Dieu, accorde-leur, Seigneur, le pardon qu'ils sollicitent. Et en même temps, lave leur conscience dans le sang précieux que Christ a versé à la croix de Golgotha. Nous avons tous besoin d'être lavés, d'être purifiés dans ce sang-là, Seigneur. Rends-nous purs, plus blancs que la neige. Rends nos consciences pures, débarrassées de toute impureté et de toute souillure par l'action de ton esprit, au moyen du sang que tu as versé à la croix. Merci Seigneur.